Bienvenue pour cette nouvelle émission Micro-Rebelle Hebdo. Merci de votre fidélité. Micro-Rebelle est la radio des luttes sociales et des alternatives dans le bassin minier et au-delà. Je commence par vous présenter le programme de cette nouvelle édition. Tout d'abord, la rubrique actualité. Cette semaine, nous avons choisi de mettre encore une revue de presse. C'est une revue de presse centrée sur quelques journaux alternatifs que vous pourrez notamment trouver au LAG. Puis, notre rubrique agenda. Quelques annonces d'événements pour la période qui vient. Enfin, deux reportages, un premier sur le marché aux livres de Béthune, puis un autre, la suite de nos chroniques kurdes. Cette émission a été préparée par Elsa, Jonathan, Louise, Lucien, Michel, Nadine et Sarah. Comme d'habitude, nous vous proposerons également quelques morceaux de musique libre avec l'objectif de vous en faire apprécier la diversité. Bonne écoute à toutes et à tous et, sans plus attendre, place à cette petite revue de presse de quelques journaux alternatifs présents au LAG à Liévin.
Silence ce mois-ci, on se pose la question de la non-violence en temps de guerre. Quelles méthodes sont à privilégier pour régler tous les conflits? De nombreux articles mettent en exergue ces civils qui se battent pour la paix dans le monde ou encore proposent d'autres solutions que le lancement de bombes face à Daesh. Mais pour les amoureux de silence, ne vous inquiétez pas, de nombreux articles sont également consacrés à l'écologie et aux projets collectifs qui se mettent en place. A noter que Silence est vendu en maison de la presse, mais qu'il est également disponible au LAG pour 4,60€.
Le LAG reçoit maintenant un nouveau quotidien, Le Progrès Social. Rien que ce titre, c'est déjà tout un programme. Il faut reconnaître que ça nous a surpris. C'est un nouveau journal, un nouveau quotidien. Par les temps qui courent, avec une presse qui est toujours en crise, c'est assez extraordinaire. Alors évidemment, ce quotidien, ce journal, Le Progrès Social, c'est un petit format. Hein. Il est composé de 4 à 8 pages, en couleur. Il coûte 85 centimes. Et on peut imaginer, pour sortir un tel quotidien, une grosse mobilisation de l'équipe. Hein, sortir une information alternative au plus près des luttes sociales, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Précisons que le journal ne contient aucune publicité. Il paraît du mardi au samedi et il est composé d'interviews, de dessins, d'actualités et également d'un agenda social et culturel. Parmi les quelques articles que nous avons pu relever récemment, certains concernent notre région. On peut par exemple citer un article sur le comité aux victimes du capitalisme hein, qui mène ses activités, notamment dans le bassin minier. Et également un article récent sur l'association Le Réveil Voyageur à Calais qui apporte un soutien concret aux migrants et bien d'autres articles. Donc un journal à consulter au LAG, Le Progrès Social. On peut également s'y abonner. Un quotidien à suivre pour l'ensemble de nos luttes.
Alors dans l'âge de fer, ce mois-ci, on retrouve un nouveau café villageois dans le Luberon, de l'agriculture un peu partout dans le monde, de la politique, mais aussi tous les conseils pratiques qu'on a l'habitude de regarder pour se faciliter un peu la vie. Le dossier de ce mois-ci est consacré au théâtre, qui se montre engagé et bien prêt à faire bouger les choses de sa manière. Vous pouvez bien sûr retrouver ce journal dans les maisons de la presse et au LAG pour 1,50€.
On va maintenant évoquer le dernier numéro de notre journal régional, La Brique. Hein, c'est un numéro très important, hein, très dense, très volumineux. Hein, il fait 28 pages pour un prix identique de 2€. Et c'est un numéro qui est complètement axé sur les luttes en cours. Donc si vous permettez, on va en parcourir le sommaire ensemble. Alors il y a une grosse partie de ce numéro de La Brique qui est consacré à des reportages hein, sur les luttes sur le terrain. Quelques exemples de ces reportages. On a d'abord les militants qui bloquent le dépôt pétrolier de Douchy-les-Mines, et notamment le soutien de la population, relaté par un syndicaliste. 90% des gens qui passent en voiture, ils nous disent « Allez, lâchez rien, les gens en ont marre ». Un autre reportage concerne les étudiants et étudiantes de Lille 1 qui se sentent particulièrement concernés par la loi travail et qui occupent leur amphi. On a également des lycéens et des lycéennes de Boulogne-sur-Mer qui attaquent une banque à coups de G2 et de farine. 7 mineurs seront emmenés au commissariat, 5 finiront en garde à vue. Et encore la lutte des intermittents du spectacle, qui subissent la précarité depuis longtemps maintenant et qui occupent le Théâtre du Nord. Une opération soigneusement préparée justement par les intermittents et les intermittentes, ou plutôt les interlutants et les interlutantes. Il s'agit pour eux et pour elles d'entrer dans le centre des impôts de la cité administrative pour y déployer une banderole MEDEF, paie tes impôts. Et ça marche avec l'aide d'une partie de la manifestation à l'extérieur qui dévie sa route pour appuyer les militants et les militantes à l'intérieur du centre administratif. Et puis, on en a déjà parlé à Micro Rebelle, le saccage du siège de la CNT à Lille et l'arrestation de 2 militants au hasard et une audience qui cristallise un bel exemple de justice arbitraire aux ordres d'un État policier. Une autre approche dans ce décidément bien inspiré numéro de la Brique nous amène à nous interroger sur la violence dont l'ensemble des hommes politiques et des médias ont fait leur cheval de bataille. Il y a d'abord, il faut remettre les choses sur leurs pieds, la violence de l'État et la violence économique des patrons licencieurs, exploiteurs. Et de là, la brutalité policière, chien de garde de la violence de l'État et des patrons. Et puis, toutes les violences ne se valent pas. Pourquoi parler de la violence des casseurs d'un côté et de l'autre, quand des manifestants ou des manifestantes détruisent des portiques écotaxes avec 4 millions d'euros de dégâts à la clé? Pourquoi donc évoquer dans ce cas-là la colère compréhensible d'une population en souffrance, les agriculteurs et les agricultrices? Les mots sont importants et la stratégie de l'État et des médias qui stigmatise la violence des casseurs a une portée stratégique. Il s'agit de diviser la contestation. Une autre lutte que la Brique n'a pas oubliée, c'est celle des 8 de Goodyear, condamnés à 9 mois ferme pour avoir séquestré 2 responsables de la boîte pendant une nuit durant un conflit social pour préserver leur emploi. On est en plein dans la criminalisation du mouvement social. Celles et ceux qui luttent sont des casseurs, des voyous. Il faut qu'ils aillent en prison. La Brique consacre également plusieurs articles au mouvement Nuit Debout, particulièrement à Lille, place de la République. On y suit les débats, les commissions, les questionnements aussi. Et puis l'articulation entre la réappropriation de l'espace et la convergence des luttes. Une belle place combative est donc consacrée aux luttes dans ce très chouette numéro de la Brique. Avec également quelques pas de côté. Par exemple, un article s'intitule « À vos smartphones ». Il s'agit ici de s'interroger sur ce que valent les injonctions dans nos manifestations, dans nos collectifs militants, à s'emparer de hashtags, de SMS viraux, etc. Est-il bien nécessaire que tout commence et se termine par un putain de compte Facebook? Autre pas de côté, le traitement de l'info des luttes par la Voix du Nord. Il faut reconnaître que la Voix du Nord, ce n'est pas la Brique, ni Micro-Rebelle d'ailleurs. La première caractéristique de la Voix du Nord, telle que le relève la Brique, c'est l'absence de cohérence, tout au moins au début du mouvement des luttes. Typiquement, chaque journaliste écrit un peu comme il l'entend, quitte à contredire ce qu'écrit par ailleurs un ou une de ses collègues. Ensuite, quand les grèves et les initiatives prennent de l'ampleur, c'est une autre histoire. L'ensemble du journal se range derrière une unique grille d'analyse, et cette grille est très simple. Premièrement, il n'y a pas de violence policière. Deuxièmement, les problèmes viennent des casseurs et jamais de la loi travail qui n'est pas remise en cause. Pour couronner le tout, évidemment, la Voix du Nord n'évoque jamais ou quasiment jamais, et en tout cas jamais pour les mettre en valeur, les luttes concrètes, que ce soit l'occupation de la cité administrative ou les initiatives des interlutants et des interlutantes. Par ailleurs, les partis pris de la Voix du Nord sont évidents. Entre témoignages de policiers qui font état de leur spleen et interviews d'un casseur, entre guillemets, dont les réponses sont manifestement tronquées par le journaliste. Au final, la Brique le relève bien. Pour la Voix du Nord, ne pas informer, c'est tout un métier. Enfin, un troisième pas de côté dans cette Brique décidément très cassante, Il s'agit d'un article autour de l'université française, laboratoire de la précarité. La brique touche ici du doigt la traduction déjà concrète de ce qui attend toute la société avec la loi El Khomri. C'est donc, on l'a dit, une brique bien dense, bien incisive, centrée sur les luttes actuelles. Il y a cependant d'autres articles que l'on a maintenant plaisir à signaler. Une interview de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, sociologues de la vie des riches, et qui nous invitent à tout faire pour que la loi ne passe pas, parce que les gens seront de nouveau esclaves. Un autre article, qui est en quelque sorte la suite d'un article paru dans le précédent La Brique, c'est une chronique du travail ordinaire, relatée par un ouvrier intérimaire. Dans le précédent numéro de La Brique, Eric nous relatait son activité de cordiste, chargé de nettoyer les cuves de sucre. Un témoignage complètement édifiant. Dans ce numéro-ci, Eric évoque ses déplacements, et notamment le fait qu'il est amené à dormir dans des dépendances d'immeubles. La réaction de certains et certaines copropriétaires, petits bourgeois bien propres sur eux, ne se fait pas attendre. Mépris de classe quand tu nous tiens. Autre article, un communiqué amer de la Mutuelle des fraudeurs de Lille qui arrête ses activités, écœuré par les amendes, les menaces d'emprisonnement et, surtout, par la politique sécuritaire mise en œuvre sur la métropole et l'augmentation des tarifs et la fin de la gratuité pour les chômeurs handicapés, etc., etc. Et pour terminer, un bel article sur les ateliers populaires d'urbanisme, les APU, mobilisés contre l'habitat indigne. Voilà, c'est réellement une brique qui nous a emballés, une brique comme on l'aime. Les articles sont fouillés, documentés, on adhère complètement. N'hésitez pas à vous procurer ce numéro d'été, c'est 2 euros dans les bonnes maisons de la presse ou encore au LAG.
Je vous le disais, nous allons vous faire goûter à la diversité de la musique libre. Pour commencer, deux extraits de Daniel Bautista. C'est un guitariste qui propose de nombreuses compositions très variées sous licence libre, en général Creative Commons, CC by SA, by SA signifiant paternité et partage à l'identique. Le premier morceau n'est pas de sa composition, puisqu'il s'agit des quatre saisons de Vivaldi, dont Daniel Bautista a réalisé les arrangements. C'est donc plutôt du classique. Le deuxième morceau est une composition de Daniel Bautista dans un tout autre style. On est plutôt dans le rock et le jazz fusion. Il s'intitule « Dances and Lullabies »,« Danse et berceuse ». C'est un extrait de l'album libre « New Ways to Destroy Music », nouvelle façon de détruire la musique. Tout un programme. Je vous laisse donc avec Daniel Bautista, les quatre saisons, puis « Dances and Lullabies ». Projetons-nous maintenant dans les événements à venir avec la rubrique Agenda.
Une exposition sur le football et l'exclusion se prépare à Hochy-les-Mines. Elle se déroulera pendant les horaires d'ouverture habituels à la bibliothèque Louis Aragon d'Hochy-les-Mines, 104 rue Humblot, et sera consacrée à ce monde où tout tourne autour du ballon, qui lutte contre l'exclusion, phénomène de rejet d'une personne au sein d'un groupe. Le jeudi 23 juin à 19h se déroulera au LAG un débat organisé par les décroissants du Pas-de-Calais autour du revenu de base. Le revenu de base est le fait de donner un salaire identique pour tous qui ne dépendra pas du travail. Ce débat posera certaines questions sur la durée de ce revenu, son montant, son financement ou encore son intérêt pour la population et l'État. En sachant que la question du revenu de base est une question émergente et que de nombreux politiques de différents partis s'y intéressent, ce débat devrait être très intéressant. Alors venez en discuter avec nous au LAG. Accrochez-vous parce que vous allez en avoir plein les oreilles avec le festival Rétro C'est Trop qui se tiendra au château de Tilloloy, en Picardie le 25 et 26 juin. Au programme Scorpion, 10 Years After, Ben Miller Band ou encore ZZ Top, ce qui promet deux jours festifs. Pour plus d'informations et pour réserver vos places, il vous suffit de taper le nom du festival et de nombreux sites internet seront là pour vous aider. Le 30 juin à 20h au LAG aura lieu un ciné-débat sur le film Les Fagors et les Brandt, réalisé en 2007 par Anne Argus. Fagor et Brandt sont tous deux des entreprises d'électroménager, mais une chose les différencie, Fagor est une coopérative, alors que Brandt, non. Une coopérative signifie que cette entreprise appartient aux salariés, et c'est ce qui a posé problème lors de cette fusion. En effet, Fagor avait décidé de racheter Brandt, ce qui avait causé de nombreux problèmes aussi bien au niveau logistique qu'au niveau humain. La problématique de cette soirée sera donc, est-ce que la fusion d'entreprises se passe différemment dans le monde coopératif ? Nous espérons que notre invitée Anne Argus, la réalisatrice, pourra nous donner des réponses lors du débat auquel vous êtes bien sûr tous conviés à participer.
Le samedi 2 juillet, deux belles initiatives sont organisées à Liévin, deux belles initiatives festives, ouvertes à tous et à toutes. Alors il y a d'abord le barbecue organisé par notre équipe de micro-rebelles, je vais vous en parler un peu plus tard, et puis le repas partagé organisé par le LAG, le lieu autogéré, à Liévin. Je vais commencer par évoquer ce dernier événement, le repas partagé organisé par le LAG. Le LAG invite toutes ses amies, c'est un repas qui est ouvert à toutes et à tous. L'objectif c'est de se retrouver pour passer une bonne soirée ensemble autour d'un bon repas. Donc au LAG, au 23 avenue Jean Jaurès à Liévin, et d'échanger autour des projets du LAG, autour des activités prévues, autour de ce qui a été réalisé cette année. Donc c'est à 19h au LAG, au 23 avenue Jean Jaurès. Si possible, il est demandé à tous les participantes et participants de passer dans l'après-midi avec ses ingrédients pour préparer le repas ensemble. Donc je rappelle, c'est le 2 juillet, 19h le repas, et à partir de 14h dans l'après-midi, on vient avec ses ingrédients pour la préparation. Bien, je vous le disais précédemment, notre équipe de micro-rebelles est particulièrement heureuse de vous proposer un bon moment à passer ensemble. Donc ce sera le samedi 2 juillet à partir de 13h. L'idée, c'est passer un moment autour d'un barbecue. L'idée, c'est que chacun et chacune apporte à manger et à boire. Et puis on se retrouve et puis on mange ensemble, on boit ensemble, avec y compris d'autres activités. Alors, notre équipe souhaite s'adresser à toutes celles et ceux qui ont participé à nos émissions, donc les membres d'associations, les membres de collectifs, les amis de Micro-Rebelles, mais aussi à l'ensemble de nos auditrices et nos auditeurs, et enfin les habitants du territoire, nos voisins et voisines, à nous, Micro-Rebelles. Qu'est-ce qu'on compte faire ce samedi 2 juillet ? Premièrement, on voudrait vous présenter notre équipe. hein, qui on est, d'où on vient, pourquoi on a choisi de s'investir au sein de Micro-Rebelles. Vous présentez nos projets, donc l'année scolaire se termine, hein, Micro-Rebelles va bientôt interrompre ses émissions pour les vacances, mais on a des projets pour la rentrée et on voudrait au moins en discuter avec vous. On voudrait également vous proposer de visiter nos locaux, et puis surtout écouter vos idées, vos propositions, vos remarques, hein, vos critiques même, hein, et puis vos encouragements. Et surtout, passer un bon moment ensemble avec chacune et chacun d'entre vous. Donc c'est le samedi 2 juillet à 13h, et Micro-Rebelles se trouve au 199 rue Émile Zola à Liévin. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous envoyer un courriel, contact@microrebelles.fr, et puis consulter d'autres informations sur notre site http://microrebelles.fr. À très bientôt, au samedi 2 juillet.
Place maintenant à notre premier reportage. Il est réalisé par Michel et concerne le marché aux livres de Béthune.
Bonjour à toutes et tous. Cette semaine, nous allons à la rencontre des bouquinistes du marché aux livres de Béthune. Chaque dernier samedi du mois, ils s'installent rue Grosse Tête pour partager le temps d'une journée leur passion des livres avec les habitants. Timides, prolixes, concis ou encore réservés, ils ont accepté de jouer le jeu des questions-réponses de Micro-Rebelles. Bonne écoute!
À l'origine de l'idée, c'est de la flânerie en fait. Hein. Je me suis promené un jour à Reims et j'ai découvert fortuitement qu'il y avait un marché aux livres en centre-ville. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, me promener, découvrir un marché et puis parcourir les divers stands à la recherche d'un trésor ou d'un livre qui m'emballe. Quoi. C'est sa première chose. Ensuite, ayant été libraire en neuf, j'ai une petite attirance particulière pour le livre, à la fois l'objet et son contenu. Et donc, ça ne m'a jamais quitté, même après la liquidation de la librairie Un Pas de Côté que j'avais montée en 2005. Donc, au bout de 4 ans et demi, j'ai dû arrêter. Et puis, j'avais continué à chiner, etc. Et donc, l'année dernière, j'ai décidé de repartir en occasion, en me disant pourquoi pas, étant béthunois, redémarrer quelque chose à Béthune ou essayer d'initier quelque chose à Béthune, étant donné qu'il n'y a plus aucune librairie digne de ce nom, parce qu'on ne peut pas appeler le Furet une librairie, et que même la librairie d'occasion Kili-Kili qu'avait Amandine avait arrêté. Donc voilà, Béthune, c'est une belle ville avec une grande agglomération. Il n'y a pas de raison qu'ici on ne puisse pas mener à la fois des marchés aux livres mensuels de livres d'occasion et anciens. Et je pense qu'un jour ici il y aura aussi une grande librairie indépendante. C'est une question de temps. Peut-être que le contexte économique n'est pas favorable, mais je ne vois pas pourquoi ici il n'y a plus de librairie indépendante digne de ce nom. Donc voilà l'origine de cette idée. Et ensuite, connaissant Vincent Huchette installé à Liévin depuis de nombreuses années, et puis Olivier Bouly qui était comme moi en micro-entreprise sur Bruet, je les ai contactés pour savoir si ça les intéressait de bosser sur la création de marchés mensuels. Donc on a fait ça à trois ici, à Béthune, mais d'abord ça a démarré à Bruet en juin 2015, puis Béthune en août, et là depuis un mois on a démarré la mensuelle d'Arras aussi.
Moi, ça m'a semblé tout à fait pertinent de créer donc des rendez-vous réguliers autour du livre d'occasion. Donc, j'ai répondu à sa proposition. Et puis, en même temps, j'ai participé donc sur sa demande, mais au petit groupe qui a réfléchi un peu à comment organiser ce type de rendez-vous et puis a participé aux rencontres qu'on a sollicitées auprès des mairies.
C'est un métier de bouche à oreille et de livre à livre. Et donc j'ai rencontré Vincent à Amiens, puisqu'on fait depuis 7-8 ans à Amiens, tous les mois. Et il m'a invité à ce marché, en fait. Voilà. Et puis je trouve que c'est assez sympathique, de toute façon, de recommencer les aventures après autant d'années. Quoi, voilà.
Alors, il était situé sur un parc juste tout près de Auchan. Ensuite, nous sommes arrivés de l'autre côté du beffroi sur la petite place, mais c'était pas, je dirais, non plus satisfaisant. Et c'est depuis que nous sommes rue Grosse Tête qu'on a vraiment une affluence beaucoup plus importante.
Thank you. j'ai fait beaucoup de choses avant d'arriver là. Je sais pas, je m'étais lancé un petit peu dans la brocante, les antiquités, et puis j'avais une attirance pour le livre, donc de plus en plus je me suis lancé dans la vente de livres d'occasion, et après avec le temps dans le livre ancien.
C'est pas un métier, c'est une passion. Je dirais, je fais ça vraiment par envie de contacter les gens, d'échanger. C'est un échange. C'est un échange donc avec des lecteurs basé sur le conseil. Moi, je conseille des livres. Les lecteurs me conseillent des livres. Donc, c'est avant tout un échange, donc un lieu qui permet un échange. Et donc, derrière, c'est très enrichissant aussi bien pour moi que pour mes clients. Donc, avant tout, c'est une passion.
Le plaisir dans le métier, c'est d'acheter, en fait. C'est d'acheter et d'acquérir beaucoup de lire, en fait. Et la vente, c'est plutôt pour se nourrir, quoi, en fait, si on peut dire. C'est une obligation, mais le plaisir, c'est l'achat. Et je crois que c'est plutôt ça qui me plaît, de voir beaucoup de livres achetés, quoi, en fait. Voilà. Ça me passionne encore. J'ai encore le frisson quand j'achète des livres, voilà.
Un confort psychologique beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'ici, déjà, je suis en plein air, je ne suis pas enfermé. C'est une fois par mois, donc trois fois maintenant, puisqu'il y a trois marchés, que le risque est moindre. Hein. Faut dire ce qui est. En neuf, j'ai vécu 4 ans et demi sans me payer. J'y ai mis du capital personnel que je n'ai pas récupéré. Voilà. Ensuite, après, c'est le livre, pour moi, c'est à la fois un objet, un contenu, et après, il y a une magie qui... Il y a toujours eu quelque chose qui m'a attiré, et cette attraction demeure, et tant qu'elle demeure, je ferai quelque chose autour du livre.
Super initiative, ça manquait vraiment à Béthune, cette ouverture aux livres. Malheureusement, les librairies ferment un petit peu, donc on a un grand, grand plaisir à retrouver tous les derniers samedis du mois dans la rue ici les bouquinistes avec vraiment un choix très, très varié. Et puis, ma foi, ce sont des gens très sympathiques, donc j'ai commencé à porter le café à Greg et finalement, je l'apporte un peu pour tout le monde. Maintenant, je fais une cafetière. C'est un vrai lieu de rencontre. Très souvent, je rencontre des amis à moi, d'anciens professeurs, d'anciens collègues, et on discute toujours d'un livre qu'on est en train de regarder ou d'un auteur. Et c'est vraiment chouette. Et puis, on voit plein de gens qui s'arrêtent, qui feuilletent les livres. C'est vraiment vivant. C'est un très, très beau moment à chaque fois, ce samedi-là. Donc, c'est un plaisir qu'on vient partager en tant que voisin.
Pour nos auditeurs, parce que c'est bientôt les vacances, le ou les livres que t'emmènerais dans ta valise ?
Un vieux livre, qui a plus de 10 ans, mais qui me semble tout à fait d'actualité et qui se lit aisément, c'est Les Vivants et les Morts de Mordilla, qu'on trouve en poche. Et puis, en spiritualité, découvrir ou relire Krishnamurti, ça fait toujours du bien, ça remet les idées en place.
La trilogie Véroven de Pierre Lemaitre. Donc c'est une trilogie qui comporte 4 livres, mais c'est 4 livres extraordinaires, 4 thrillers policiers. Pierre Lemaitre, c'est un Français, c'est celui qui a fait Au revoir là-haut, donc le prix Goncourt d'il y a 2 ans. C'est un écrivain extraordinaire.
Alors un que j'ai déjà lu plusieurs fois et que je relirai bien encore une fois, c'est Toi nous. Eh bien c'est l'histoire d'un... Et le sous-titre d'ailleurs du livre, c'est Le cri d'un enfant auvergnat. Donc c'est la vie de ce petit gamin à partir de ses 5 ans qui habite au fin fond de l'Auvergne. Et puis voilà, on suit toute sa vie jusqu'à ce qu'il devienne, je crois de mémoire, responsable d'une usine textile à Roubaix ou à Tourcoing. Voilà, c'est toute sa vie et tous ses malheurs.
Alors moi déjà je vais en emmener beaucoup des livres, ça c'est sûr. Je pense que je vais emmener les derniers ceux que j'achète aujourd'hui. Mais c'est des livres de littérature, des essais de littérature de Tsétan Todorov et ma foi je ne sais plus lequel j'ai acheté autrement, mais des livres, des romans aussi beaucoup, moi j'adore la littérature, donc des romans, le livre de Colette aussi, un gros livre là que j'achète avec ses œuvres complètes, c'est magnifique Colette à lire l'été sur la nature, les animaux qui nous entourent, c'est les livres et la vie.
Notre reportage sur le marché du livre de Béthune s'achève. J'espère qu'il vous aura donné envie d'aller à la rencontre de ces personnes qui ont beaucoup de choses à échanger. La musique qui nous a accompagnés pendant le reportage, c'est un morceau qui s'appelle Capriccio Arabe, exécuté par Andrés Segovia. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain reportage. Au revoir.
Maintenant, notre second reportage. Il concerne le quatrième épisode de nos chroniques kurdes. La semaine dernière, nous avons abordé les actions de solidarité avec le peuple kurde. Nous avons notamment évoqué, d'une part, la solidarité avec les combattantes et combattants au travers d'une campagne organisée par nos amis de l'Insoumise intitulée « Des pansements pour le Rojava ». Et d'autre part, la solidarité pour la reconstruction autogérée sur place, alors que les multinationales se mettent d'ores et déjà sur les rangs. Aujourd'hui, nous continuons à explorer ces actions de solidarité à travers deux autres exemples concrets. Premièrement, des livres pour Rojava. C'est une initiative qui nous est notamment relatée dans le numéro de juin 2016 du mensuel Alternative Libertaire disponible au LAG à Liévin. Deuxièmement, Nourrit la Révolution. Il s'agit d'un projet solidaire qui concerne l'organisation de la production agricole et la collecte de semences. Sans plus attendre, voici donc cette nouvelle chronique kurde.
Şenay berbayan dimen bediman Şenay berbayan dimen bediman Bawa şendeka agri deyçiman Bawa şendeka agri deyçiman Şenay berbayan dimen bediman Şenay berbayan
par l'initiative des livres pour Rojava. Cette initiative a été mise en œuvre il y a un peu plus d'un an par le syndicat Solidaire Étudiant, donc syndicat bien connu, syndicat de lutte. Solidaire Étudiant a mis en place cette initiative pour soutenir la révolution en cours au Rojava,
plus particulièrement en encourageant l'Académie des sciences sociales de Mésopotamie. Alors, l'Académie des sciences sociales de Mésopotamie, qu'est-ce que c'est ? C'est une académie qui a été créée à l'été 2014 dans le Rojava, encore en guerre à l'époque, pour accueillir des étudiants et des étudiantes souhaitant faire de la sociologie et de l'histoire. De la sociologie et de l'histoire, mais de façon nouvelle, puisque la manière d'y enseigner s'inscrit dans le souffle révolutionnaire qui envahit la région. Alors, cette campagne des livres pour Rojava consiste à recueillir des livres dans toutes les langues, puis à les envoyer à l'académie. Alors, dans toutes les langues, pourquoi dans toutes les langues ? Il faut dire que ce problème de la langue est une question cruciale dans la lutte kurde. Pendant longtemps, la région a été soumise à l'imposition de l'arabe et du turc pour le nord Kurdistan, au détriment de toutes les autres langues, et notamment des langues maternelles des habitants et des habitantes. Le respect et l'intérêt pour la diversité des langues sont des points cruciaux de la lutte des Kurdes. La campagne a donc été à la fois le moyen de faire parvenir des livres en français, en anglais ou en espagnol, mais surtout, et paradoxalement, des livres en kurde, l'académie n'en possédant quasiment aucun. Derrière le recueil des livres, le but de la campagne était et de faire reconnaître le Rojava et le Bakour, ces deux régions kurdes, l'une en Syrie, l'autre en Turquie, où se développe le projet révolutionnaire du confédéralisme démocratique. Sur ce plan, la campagne est une réussite totale, car elle a permis de faire beaucoup d'informations en mettant en avant autre chose que la seule question des combats. Le soutien aux Kurdes est souvent pris sous les angles humanitaires ou militaires qui, s'ils sont importants, effacent souvent la perspective révolutionnaire qui se développe au Rojava et au Bakour. La campagne a ainsi mis en avant la question du projet éducatif qui fait partie de la révolution et mérite largement qu'on y soit attentif et attentive, et même que l'on s'en inspire. Académie, le mot est tiré du nom des écoles d'enseignement du PKK, le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, dont nous vous avons parlé dans notre dernière émission. Mais il marque aussi, ce mot académie, une rupture avec les universités étant assimilées à l'État. Et de surcroît, avant la révolution en 2012, les universités syriennes imposaient des contenus nationalistes. Dans l'académie aujourd'hui, l'enseignement n'y est pas hiérarchique et le savoir ne se veut pas faussement objectif. Y est assumée la volonté d'apprentissage en lien avec les principes de la révolution et la volonté d'y changer le monde et les habitudes. L'enseignement s'y veut donc antisexiste, écologiste, démocratique ou encore égalitaire et, bien sûr, dans les langues choisies. Alors, où en est cette campagne du syndicat solidaire étudiant ? La collecte des livres est aujourd'hui clôturée et le travail se concentre sur l'objectif de recueillir suffisamment d'argent pour en expédier le maximum. À l'heure actuelle, quelques centaines de livres ont été envoyés ainsi qu'une somme d'argent assez conséquente pour qu'ils puissent directement en acheter d'autres dans la langue et le sujet souhaité. D'autres centaines de livres dorment toujours au local de Solidaire à Saint-Denis, en attente de pouvoir être expédiés à leur tour au Rojava, chose assez complexe à effectuer au vu de la situation géopolitique locale et du coût du transport. Un autre projet est d'ailleurs en cours, celui de vendre à prix libre les livres récupérés inenvoyables, par exemple sur la sociologie rurale de la France ou encore un guide touristique de Rome. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ces livres, vous pouvez les acheter pour, à prix libre pour soutenir la campagne. Et ainsi, l'argent sera expédié, ce qui permettra à l'Académie de faire ce qu'elle souhaite, achat d'ordinateurs ou construction d'un dortoir. Ainsi, des soirées de soutien continuent à être organisées, même après l'arrêt de la collecte. Pour poursuivre le souffle donné à la campagne, un collectif de soutien à la culture et à l'éducation au Rojava a été créé avec pour ambition de prendre le relais du soutien à cette académie, en rassemblant ainsi au-delà des seuls syndicalistes. Alors, ce collectif a déjà organisé une soirée à l'occasion du Néo-Rose. Le Néo-Rose, c'est la fête du Nouvel An kurde et c'est aussi un moment de réaffirmation du combat politique. Ce collectif vise à la fois à ramasser de l'argent pour aider cette académie et les autres aussi en train de s'ouvrir, mais aussi de travailler à sa reconnaissance institutionnelle auprès d'universités françaises en vue de pousser à la reconnaissance de Rojava. Alors, si vous voulez soutenir ces campagnes, je vous donne deux adresses mail. Pour ce qui concerne la campagne des étudiants syndicalistes de Solidaires, vous pouvez leur écrire à sudparis8@gmail.com. Et pour le collectif de soutien à la culture et à l'éducation au Rojava, c'est rojavaacademy, tout collé, @gmail.com.
Un autre projet encore de solidarité internationale s'appelle Nourrit la Révolution. Et donc c'est un projet qui est officiel au Rojava. Quand je dis officiel, c'est-à-dire que le Rojava, comme on l'a dit auparavant, est organisé socialement par des comités locaux au niveau des quartiers, puis au niveau des villes, puis au niveau plus largement. Et donc, il y a aussi des comités par thématique. Et donc là, le comité économique de Rojava a décidé de lancer cet appel et ce projet officiel, qui est en fait un appel à aider à résoudre le problème de nourriture en faisant en sorte que le Rojava devienne autosuffisant dans la production de nourriture par le biais de l'agriculture. Et pour cela, en fait, grâce à la fabrication sur place d'engrais écologiques. Donc je resitue rapidement pourquoi en fait cette campagne et ce projet a été mis en place. Il faut rappeler que donc le Rojava, donc le Kurdistan au nord de Syrie, subit un embargo depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'il est coupé de tout apport et de tout import de ressources, notamment en nourriture. Et que donc, il y a eu et il y a encore des problèmes de personnes qui ne mangent pas à leur faim, par exemple. Et que l'économie actuelle du Rojava, elle se base beaucoup sur l'agriculture. On sait que l'État syrien, depuis de nombreuses années, il a imposé sur cette terre qui est très riche, en fait, il a imposé une monoculture de blé. Et qu'aujourd'hui, donc, depuis que la révolution est en marche, les habitantes et habitants, notamment fermières et fermiers du Rojava, tentent de commencer à diversifier les cultures et mettre en place des parcelles plus petites, des productions locales, etc. Alors, par contre, pour ça, pour ces cultures de blé et autres, il y a besoin d'engrais pour faire pousser. Et l'idée, c'est pas d'importer des engrais chimiques. C'est pas du tout l'idée politique du Rojava. C'est de fabriquer sur place directement des engrais naturels. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte
que sur place au Rojava, en fait, les déchets produits par les gens et les animaux permettaient en quantité de fabriquer suffisamment d'engrais pour l'utiliser sur les cultures. Seulement pour ça, il y a besoin de le fabriquer, de cette étape de transformation. Et cette étape de transformation, elle nécessite aussi bien des personnels que des connaissances, que des matériels, du matériel, et que ça a un coût. D'où cette campagne qui est aussi une campagne de financement participatif, qui est possible sur le site Coop Funding. Donc c'est des participations financières coopératives et solidaires. Et cet argent récolté permettrait donc de financer un certain nombre de matériel, mais aussi de former des gens, de produire des supports éducatifs pour former les gens sur place, tout le monde, au tri des déchets et après à la transformation des déchets en engrais naturel. Pour plus d'infos, moi je vous propose d'aller sur le site internet qui est en plusieurs langues, dont en français, et qui explique très bien tout ça. C'est rojavaplan.com. rojavaplan.com. Et bien voilà, nous venons d'évoquer différentes initiatives de solidarité avec le peuple kurde. Mais il nous semble également important en matière de solidarité de penser à s'informer sur la situation au Kurdistan et les luttes qui s'y mènent. Bien sûr, il y a les chroniques kurdes de micro-rebelles que nous vous remercions d'écouter. Rappelons que ces chroniques sont téléchargeables et réécoutables sur notre site micro-rebelles.fr. Mais mentionnons également le journal Merhaba et Valno, qui est une parution mensuelle qui est téléchargeable. Nous pouvons également nous rapporter au site kedistan.net, où d'ailleurs vous pouvez télécharger le mensuel Merhaba et Valno. Et puis également le site de nos amis Femmes Solidarité Kobané, l'intitulé de leur site étant tout collé Solidarité Femmes, femmes au pluriel, Kobané. solidaritefemmeskobane.org. Et bien sûr, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique kurde sur microrebelle.fr. Cette diffusion de Micro-Rebelles Hebdo se termine. Merci de nous avoir écoutés. Rappelons que vous pouvez écouter et réécouter Micro Rebelle Hebdo sur notre site microrebelle.fr et également sur Radio PFM 99.9 les mercredis à 22h, les jeudis à 17h et les dimanches à 9h. Précisons enfin qu'il vous est tout à fait possible de participer à l'aventure Micro Rebelle et de rejoindre notre équipe composée uniquement de bénévoles. Vous pourrez notamment intervenir au sein de nos émissions, par exemple pour traiter d'un événement ou encore pour présenter votre association, votre collectif militant. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre en charge un créneau régulier sur une thématique qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, vous disposerez du matériel nécessaire et nous vous formerons à son utilisation. Le plus simple pour nous contacter est de nous envoyer un courrier électronique à l'adresse contact@microrebelle.fr. contact@micro-rebelle.fr. Et enfin, avant de rendre l'antenne, Micro Rebelle souhaite vous solliciter financièrement. Nous sommes une radio indépendante, sans pub, sans subvention. Vos contributions permettront d'améliorer notre équipement matériel et notre présence Internet. Le plus simple est de nous envoyer un chèque à l'ordre de Micro Rebelle à l'adresse suivante. Micro Rebelle, Le Lag, LAG, 23 avenue Jean Jaurès, 62 800 Liévin. Merci d'avance à toutes et à tous et à très bientôt.